franceinter.fr.
Il est 9h15 sur France Inter.
France Inter, édition spéciale.
Oui, c'est en principe l'heure d'écouter Interception, le magazine de reportage de la rédaction. Comme chaque dimanche matin, nous avions prévu de vous faire entendre l'enquête que Christian Chéneau vient de réaliser en Arabie Saoudite sur la place des femmes dans la société saoudienne, un mois avant des élections auxquelles, pour la première fois, elles pourront participer. Mais l'actualité dramatique que nous vivons depuis vendredi soir nous a amené à reporter cette diffusion. À la place, nous vous proposons un Interception spécial. Toute l'équipe est là autour de ces micros. Vanessa Descoureaux, Lionel Thompson, Pascal Dervieux, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà, l'équipe, cette équipe, nous allons revenir avec vous sur les premières heures de cette soirée dramatique. Quelques minutes avant que surviennent les premières attaques grâce aux témoignages que nos reporters ont collectés dans Paris. Cette spéciale débute avant le drame, car nous sommes au Stade de France, ce vendredi soir, sur l'antenne de France Info. Jacques Vendroux et Franck Ballanger ont débuté le commentaire d'un match de football amical mais prometteur, Pascal Dervieux.
Oui, ce match amical oppose la France à l'Allemagne. La soirée est douce. La pitoyable affaire judiciaire qui met en cause Benzema et Valbuena ne ternit même pas l'ambiance. Le Stade de France est plein, 80 000 spectateurs, et parmi eux, François Hollande, le président de la République, et il assiste à la rencontre. Tout promet donc une belle soirée. Dans la tribune de presse, en direct, Jacques Vendroux et Franck Ballanger discutent avec le consultant de France Info, Claude Puel. Alors, quand une première explosion retentit aux abords du stade, après un gros quart d'heure de jeu, personne, ni dans le public, ni parmi les journalistes, n'y accorde d'importance.
Ici, au Stade de France, on a toujours le même schéma, avec des Français qui tentent des choses, et les Bleus sont obligés, Claude, de contourner, au moins d'essayer de contourner le bloc allemand.
Oui, c'est vrai que les Allemands évoluent très regroupés, c'est difficile de trouver des...
Là, on peut parler de bloc, c'est ça, un bloc.
Hein. Voilà, oui, oui. Par contre, oui, on trouve une équipe un petit peu... Un délicatesse.
La première explosion. Des explosions, il y en aura trois en moins d'une demi-heure. Et lorsque Jacques Vendroux et Franck Ballanger reprennent l'antenne, après la mi-temps, là, le doute n'est plus permis.
On suit ce match avec vous, Franck Ballanger, Jacques Vendroux et notre consultant Claude Puel. On va évoquer un instant ce qui s'est produit il y a quelques minutes. Vous avez entendu, le stade dans son ensemble a entendu des explosions à proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, deux très fortes explosions, peut-être même une troisième, là les avis divergent en tout cas. C'était vraiment pas un pétard, c'était une explosion très clairement, ça ressemblait à une bombe, on va appeler les choses par leur nom. En tout cas, ça a choqué tout le monde ici. Visiblement, en plus, Jacques, on n'a plus le droit de quitter le Stade de France.
Oui, vous avez raison de parler de deux, voire trois explosions, en tous les cas on les a... Bien entendu, alors certains disent que ce sont des bombes agricoles, d'autres, on s'est renseigné, nous disent que c'est deux voire trois grenades et qu'il y aurait éventuellement, je dis bien éventuellement, hein, soyons prudents, des blessés. Les journalistes sont bloqués dans la tribune de presse.
Un hélicoptère survole actuellement le Stade de France là.
Non, il se passe forcément des choses extrêmement graves ici au Stade de France. Il y a évidemment ce match de football, je veux dire, qui devient quelque part un tout petit peu dérisoire si, évidemment, eh bien, il y a des bombes qui ont explosé, s'il y a des grenades qui ont explosé. En tous les cas, comme l'a dit très justement Franck, eh bien, un hélicoptère vient d'arriver et le public, évidemment, n'est pas au courant au moment où Griezmann, eh bien, allait marquer un deuxième but qui a été refusé, évidemment. C'est complètement, je veux dire, décalé par rapport à ce que, éventuellement, nous pouvons vivre ici au Stade de France. Mais la première information, ce sont les explosions. Ça, on les a bien entendu avec Claude Puel et avec Franck Ballanger. Et là, deuxième information, le stade est fermé. Ça veut dire que si le stade est fermé, et si on dit que le stade, on ne peut pas sortir, il y a forcément des éléments extrêmement graves qui se déroulent autour du Stade de France. Voilà ce que nous savons pour le moment.
Jacques Vendroux et Franck Ballanger en direct vendredi soir. On retrouvera quatre morts aux abords du stade. Parmi eux, trois terroristes qui se sont fait sauter avec des ceintures d'explosifs. Au même moment, dans les 10e et 11e arrondissements de Paris, d'autres terroristes s'attaquent à plusieurs bars et à la salle de spectacle du Bataclan où se déroule un concert. Des scènes de guerre en plein cœur de la capitale.
Oscar! Oscar!
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est le journaliste du Monde, Daniel Pseny, qui a enregistré cette scène de panique et qu'on entend demander ce qui se passe depuis son appartement derrière le Bataclan. Il a assisté à la scène, descendu dans la rue pour porter secours aux gens qui essayaient de fuir. La salle de spectacle prise d'assaut par trois terroristes. Il a lui-même été blessé par une balle dans le bras et hospitalisé. Parmi les témoins, parvenus à sortir indemne de la salle de concert, Louis, interrogé peu après par nos confrères de France Info, profondément choqué.
Écoutez, j'étais au concert avec ma mère. Nous on a réussi à s'enfuir du Bataclan. Je sais pas du tout ce qui se passe là-bas. Je pourrais pas vous dire ce qui se passe. Avec ma mère, on a réussi à s'enfuir. On a évité les coups de feu. Et il y avait plein de gens partout, par terre.
Vous étiez à l'intérieur de la salle.
Ouais, on était
Qu'est-ce
au Bataclan.
Qui s'est passé précisément?
On est en plein concert. Il y a des mecs qui sont arrivés. Ils ont commencé à tirer au niveau de l'entrée. Vas-y, avance, maman. Et en fait, ils ont tiré. En plein dans la foule, en criant à la Wakbar avec des fusils à pompe, je crois, parce que j'en ai entendu charger. Et du coup, après, tout le monde s'est, le concert s'est arrêté, tout le monde s'est couché à terre et continue à tirer sur les gens. Et là, putain, c'est un enfer. Pardon.
Je vous en prie, c'est tout à fait normal vu les circonstances. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez pu faire?
Ce que j'ai fait, j'ai pris ma mère, on s'est couché au sol et à un moment, il y a quelqu'un qui a dit ils sont partis, donc du coup, on a réussi à courir. On s'est enfui par une issue de secours du côté du Bataclan. Il y avait encore des coups de feu et voilà, j'ai juste fait en sorte de survivre avec ma mère. Je voulais juste que ma mère soit là.
Votre mère est à vos côtés. Vous avez pu sortir de cette salle de spectacle.
On est dans la voiture, on est rue Lafayette là actuellement.
Est-ce que des personnes se trouvent encore en ce moment dans la salle du Bataclan?
Il me semble que oui. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je pense que oui. Je sais pas. Nous, quand on est parti, on a enjambé des corps. Vous comprenez? C'est un cauchemar.
Louis, dans ce cauchemar, est-ce que vous avez pu voir les assaillants?
Non. Non, je vais pas vous mentir, j'ai juste vu des silhouettes quand ils ont commencé à tirer les premiers coups de feu, en fait, si vous voulez.
Et vous vous êtes couché, ils ont prononcé les mots que vous nous dites.
Allahu Akbar, voilà. Voilà, Allahu Akbar, et je sais plus d'autres. Je sais plus.
La tension est vraiment très importante ici. Les policiers demandent aux habitants du secteur de rentrer chez eux au plus vite. Et voilà, pour le moment, ce qu'on a comme information, on en attend peut-être un petit peu plus tout à l'heure, puisqu'on sait que le maire du 10e arrondissement vient d'arriver dans la rue Bichat, lui a pu passer le cordon de sécurité, est en train d'arriver sur le restaurant Petit Cambodge. Peut-être tout à l'heure, quand il sortira, ce maire nous livrera plus d'informations. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une énorme sidération et des gens vraiment sous choc après cette soirée et cette première attaque qui a eu lieu ici pour les attaques de ce soir.
Mathilde Lemaire dans le 10e arrondissement de Paris, quartier bouclé, hein, on le disait, après cette fusillade, l'une de ces fusillades qui s'est déroulée dans la capitale, quartier bouclé également, nous disait tout à l'heure Gaël Joly, à proximité du Bataclan où une prise d'otage est toujours en cours, des quartiers qui ont été évacués, les habitants invités à rester chez eux, c'est ce que nous disait par exemple Jérôme Jadot, place de la République qui a été évacué dans la soirée, là aussi 5 ou 6 sites ont été visés ce soir en simultané, des attaques à l'arme automatique, a priori d'après les premiers témoignages que nous avons pu entendre sur France Info, une attaque également dans le Bataclan en plein concert, c'est ce que nous racontait l'une des personnes qui assistait donc à ce concert de rock ce soir dans la salle parisienne. Il va y avoir dans quelques minutes maintenant, on attend une allocution du président de la République, puis un conseil des ministres extraordinaire.
Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne, pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite, et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. C'est une terrible épreuve qui, une nouvelle fois, nous assaille. Nous savons d'où elle vient, qui sont ces criminels, qui sont ces terroristes. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande, et les autorités de l'État fermes, nous le serons. Nous devons aussi appeler chacun à la responsabilité. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur. Il y a l'effroi, mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Françaises, Français, je vous demande de garder ici toute votre confiance dans ce que nous pouvons faire avec les forces de sécurité pour préserver notre nation des actes terroristes. Vive la République et vive la France.
La parole de François Hollande aux environs de minuit, dans la nuit de vendredi à samedi. On continue de remonter le film des événements avant d'en venir à ces dernières heures et au reportage que nous vous avons réservé dans cette édition spéciale. Peu après cette déclaration présidentielle, les forces de l'ordre donnent l'assaut au Bataclan. Les trois terroristes qui s'y trouvent sont tués ou se donnent la mort en actionnant les gilets explosifs qu'ils portaient. Mais, Lionel Thompson, la situation dans le quartier reste très tendue.
Oui, car si l'équipe qui s'en est pris au Bataclan est neutralisée, celle qui s'est attaquée au bar du quartier, peut-être distincte, semble s'être évanouie dans la nature. Les nombreux témoins, eux, ont encore du mal à réaliser qu'ils ont échappé à un véritable massacre.
On a cherché une place de restaurant et donc on est passé ici au Petit Cambodge et on en avait entendu parler, donc on voulait se mettre là. Et on a hésité, sauf qu'il faisait froid, donc on s'est dit on n'y va pas. Et je me rappelle là, il y avait une table de 8 personnes et je me dis que sur les 8, ça, peut-être qu'ils sont tous morts, peut-être qu'il y en a 2 qui sont morts, je sais pas. Et je me souviens, je les ai fixés puisque je regardais ce qu'ils mangeaient, je regardais le groupe, ils rigolaient ensemble. Et au final, on a vu les gens du Crillon et on est allé manger chez Marie-Lou juste à côté. Et on s'est installé, on a commencé à commander. Donc ça faisait 10 minutes après être passé ici. Et là, j'ai commencé, moi j'étais face à la vide, donc j'ai commencé à avoir les jets de fusillade. Donc j'ai pris l'alerte, j'ai crié dans le restaurant, les gens sont mis sous les tables, on s'est jeté dans les toilettes. Après on a rampé, on s'est mis sous la cage d'escalier, les gens de chez Marie-Lou au restaurant ont été super. C'est-à-dire qu'ils ont descendu la grille, ils ont fait rentrer les gens qui couraient dans la rue comme des fous, des Américaines qui étaient perdues. On savait pas ce que c'était, moi j'espérais que ça soit juste un one shot, un règlement de compte ou quoi, on savait pas, on était perdus, on savait pas ce qui se passait. Et après le mec du restaurant est sorti et c'est là où il a dit bah c'est un bain de sang, c'est horrible. Et on savait pas du tout ce qui se passait après, on n'avait pas conscience de l'ampleur du truc. Et on a passé notre nuit à errer en fait pendant 2 heures dans Paris pour essayer de trouver un moyen de s'échapper, puisque nous on habite rue Faubourg du Temple, donc c'était barré, il y avait eu des morts aussi. On pouvait pas rentrer chez nous. Et donc on a passé la nuit à pas savoir où aller. On savait qu'apparemment au Bataclan il se passait quelque chose, mais on n'avait pas plus d'infos. Les policiers nous criaient dessus de rentrer chez nous, mais on pouvait pas. Donc c'était un peu dur. Et nous on se dit qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on a la petite étoile. Parce qu'on aurait pu s'asseoir là.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on était on était au concert, ça jouait depuis à peu près presque une heure. Et en fait, on a entendu un premier coup, une détonation, mais on ne savait pas que c'était une détonation. On a pensé que ça faisait comme un gros claque, en fait. Donc on a pensé que c'était comme un truc qui tombait, mais très fort. Donc au départ, personne n'a compris. Et en fait, après, ça a été suivi de 3 ou 4 coups de feu. Donc là, on a compris. Donc là, il y a eu un mouvement de foule et tout le monde a commencé à se jeter par terre. Moi, j'étais au niveau de la régie, juste derrière. Donc, en fait, on est tombés dans le trou, les uns sur les autres, de manière assez violente. Et là, ça a commencé à tirer, à tirer, à tirer, à tirer, sans discontinuer. Et puis, vraiment beaucoup, ça puait le souffle, enfin, pas le souffle, mais la poudre. Je sais pas combien de temps il s'est déroulé. Je sais pas si c'était 10 minutes, un quart d'heure, mais ça a tiré, tiré, tiré. On était juste les uns sur les autres en espérant que de pas être... Et là, on a commencé à avoir du sang, etc. Et ils ont commencé à parler. Moi, tout ce que j'ai compris, c'est qu'ils parlaient de la Syrie et de l'Irak. C'est le seul mot que j'ai entendu. J'ai vu qu'ils étaient trois, assez jeunes. Nous, on n'a pas pu sortir parce que ça a recommencé à tirer au-dessus de nous. On s'est repelotonné, on a essayé de se cacher sous les tissus. Et là, il y a quelqu'un à nouveau qui a dit, il faut sortir maintenant. Et en fait, moi, du coup, j'étais avec mon ami, on s'est perdu. Et moi, je suis sortie sans réfléchir. Là, j'ai vu qu'il y avait des traînées de sang de partout, qu'il y avait vraiment beaucoup de sang dans les escaliers de partout. Et à l'extérieur, il y a des gens qui étaient par terre aussi, qui étaient blessés.
Est-ce que vous avez vu les assaillants ?
Je les ai vus rapidement. Mais alors j'en ai vu un, il m'a semblé, mais je parlerai au conditionnel parce que il m'a semblé qu'il était plutôt blond, les cheveux en brosse, courts et avec des lunettes, plutôt blanc il m'a semblé. Et les deux autres, j'ai vu qu'il y avait deux autres, mais je pourrais pas dire à quoi ils ressemblaient. Et, en tout cas une impression de jeunesse. Et je les ai vus très clairement à un moment donné, ils sont réunis près de l'entrée et en fait ils rechargeaient leur ils avaient des tonnes et des tonnes de chargeurs.
Ils parlaient en français.
Ils parlaient en français.
Ils ont dit donc
Syrie et Irak. Oui, moi j'ai entendu Syrie, Irak. Ils ont dit d'autres choses, mais dans la confusion, j'ai pas tout entendu. Mais en tout cas, enfin ils parlaient vraiment de vengeance et d'assaillants, enfin de la Syrie et de l'Irak.
Ah bah on était en haut, là, il y avait le concert se déroulait normalement et d'un seul coup on entend comme des bruits de pétards. Et puis au début on est incrédule quand on pense que c'est des pétards et on voit tout le monde plonger, puis le chanteur et tout ça, tout le groupe va foutre le camp. Alors nous on a plongé comme tout le monde et moi j'ai relevé la tête et c'est là qu'on a vu un mec avec en train de tirer. Moi je suppose que c'était une Kalachnikov, mais il tirait sur les gens qui étaient dans la fosse. Et je l'ai vu tirer en bas sur les gens allongés. Simplement ce qui m'a frappé c'est qu'il tirait calmement. Et nous on était en haut, donc on a rampé derrière les sièges. On est arrivé à un petit endroit là où il y avait une espèce de loge et puis des escaliers. Avec mon fils, on a défoncé la porte des loges, on s'est engouffré dedans. Et puis après, on a mis des trucs, il y avait un frigo, je crois, il y avait un canapé pour bloquer la porte. Et puis avec une fille qui, je ne sais plus où elle est, on est rentré dans les toilettes et puis on a cassé le faux plafond. On est passé par le faux plafond.
Et nous, en escaladant ?
Ouais, en escaladant avec les toilettes. Et puis il y avait des gens qui nous poussaient, qui nous aidaient. Et on est arrivé et j'ai vu une espèce de gaine d'aération avec des tuyaux. J'ai arraché un tuyau, j'ai appelé mon fils. Et puis on est rentré, on s'est mis au fond du conduit d'aération, là, pour rien de planquer, en haut. Ils ne sont pas du tout montés là-haut. Mais par contre, on les a entendus gueuler, négocier avec la police, tirer. On a entendu l'assaut, on a entendu des explosions. On n'a rien vu, mais on a entendu, quoi. Et puis après, voilà, bon, on a attendu que ça se calme, on a entendu les explosions. Après, il n'y a pas eu de bruit pendant bien une demi-heure, on est resté. Puis après, la police est montée, la BRI, là, et puis voilà, bon, on est sorti.
Qu'est-ce que vous avez vu dans la salle en bas en sortant ?
Plein de cadavres partout. Ah, il y en a partout, partout. J'ai même mis ma main sur du sang, je ne sais pas ce que c'était. J'ai été me laver les mains, là. Il y avait des cadavres partout. Hein. Ils ont demandé aux enfants de ne pas regarder et tout. Et partout. Partout. Des gens par terre, partout.
Ciao, belle.
Du sang partout. Ah, ça... Ça marque.
Des blessés et des rescapés traumatisés, un psychologue clinicien qui a passé la nuit avec ses blessés à la mairie du 11e arrondissement de Paris témoigne.
Ben, j'ai eu soutien psychologique de proches qui ont perdu leur femme, leurs amis, leur jeune copain de 28 ans assassiné dans. Voilà, et un restaurateur. Ils sont passés, ils ont criblé de balles, il a perdu plus de 10 personnes, dont sa femme, hein, qui est dans ses bras. J'ai aussi un monsieur qui n'était pas sûr que sa femme soit décédée. Il a deux gamins de 11 et 13 ans, donc je l'ai accompagné puisqu'il était vraiment cassé. Je suis revenu avec lui chercher son scooter qui était juste devant la salle. Et puis je dois le recontacter pour lui donner des nouvelles et de savoir si je peux retrouver où a été orienté, soit là, en tant que blessé, soit en tant que malheureusement dépouille. Voilà, donc là j'ai dû traiter, j'ai pas fait les comptes, mais au moins 25 personnes. Des enfants, des jeunes choqués, isolés, ils n'ont plus rien, je suis revenu, j'ai donné ma doudoune à une femme qui n'avait plus rien. C'est du lourd parce que là, il y a d'abord plusieurs lieux, c'est très choquant au niveau des images, et puis les quantités, c'est un nombre impressionnant, donc quand on est une, deux personnes, les gens, mais là, ça se compte par dizaines. Voire peut-être centaines en blessés, donc ça c'est très lourd. Et moi j'ai vu passer les blessés, hein, avec des balles pleines têtes et tout, qui étaient encore avec assistance médicale, où je ne suis pas sûr qu'ils malheureusement ils tiennent. Donc c'est vraiment quelque chose d'horrible, parce que les scènes qu'ils m'ont racontées aussi, où ils ont été mitraillés gratuitement, etc. Certains épargnés, d'autres pas. Et les gens se disent, mais moi j'ai survécu, donc je suis dans la culpabilité. J'ai lâché la main de ma femme ensanglantée, poussée par les policiers, et j'ai entendu les rafales. Donc lui, il sait que sa femme est morte. Et c'est un grand gaillard, 1m95, mais il a fallu que je prenne sur mon épaule, en larmes, pour pouvoir lui donner des conseils sur ses gamins, tout à l'heure à 8h, qu'est-ce qu'il va leur dire, quoi. Les gens ne sont pas préparés à ça, ils vont à un concert. Ils ne sont pas prêts psychologiquement à supporter la mort. Là, ils ont frôlé la mort ou ils l'ont vu. Ils ont marché sur des cadavres. C'est horrible. C'est des scènes qui vont traîner pendant des années.
Le choc, la stupeur, avec les médias, les réseaux sociaux, cette série d'attentats à Paris provoque très rapidement des réactions dans le monde entier. Des messages de soutien des chefs d'État ou de gouvernement parviennent, parmi lesquels celui du président des États-Unis, Barack Obama.
This is an attack not just on Paris.
Ce n'est pas seulement une attaque contre Paris ou contre le peuple de France, c'est une attaque contre toute l'humanité et contre les valeurs universelles que nous partageons.
We stand prepared. And ready to provide
nous sommes disposés et prêts à fournir toute l'assistance dont le gouvernement français aurait besoin pour y répondre. La France est notre plus vieil allié. Les Français ont toujours été aux côtés des Américains dans l'histoire et il est évident que nous sommes à leur côté dans le combat contre le terrorisme et l'extrémisme. La ville de Paris incarne en elle-même les valeurs du progrès humain. Ceux qui pensent qu'ils peuvent terroriser les Français se trompent. Dans ces moments tragiques, nous n'oublions pas que les mots de liberté, égalité et fraternité ne sont pas seulement la devise de la République française, mais ce sont des valeurs que nous partageons et qui vivront bien au-delà de n'importe quel acte terroriste ou des idées de haine de ceux qui ont perpétré les crimes de ce soir. Nous ferons tout ce qui est nécessaire avec la France et avec toutes les nations du monde pour amener ces terroristes devant la justice et pour pourchasser les réseaux terroristes qui nous menacent.
This is CNN Breaking News.
France is under a state of emergency. ISIS is claiming responsibility for terror attacks that have left more than 100.
Mesdames et messieurs, ce soir, une édition spéciale du Téléjournal qui se poursuit à l'instant. Climat de terreur à Paris, fusillades, explosions et prises d'otages.
Écoutez. Énorme explosion à l'instant, théâtre du Bataclan à Paris.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Die französische Hauptstadt Paris ist wieder Ziel von Terror und Gewalt geworden.
10:41 minutos de la noche, 9:41 en Canarias, al menos 18 muertos en algunos ataques coordinados en distintos puntos de París. Estamos hablando.
Здравствуйте, на НТВ программа сегодня в студии Михаил Чебаненко. Этой ночью страна пережила самый страшный теракт в своей истории. По одним данным погибли 128 человек. Другие источники говорят о более чем 150 человек.
Eccoci di nuovo in diretta con gli aggiornamenti sugli attentati di Parigi. Cominciano ad emergere informazioni, dettagli sugli autori degli attentati.
اخبار الساعه من قناه الجزيره وابرز ما فيها. السلطات الفرنسية تتعرف على هوية أحد منفذي هجمات باريس وتعلن إجراءات لضبط الحدود بالتعاون مع استخبارات أجنبية.
Voilà 6 attaques en 33 minutes. 129 morts et 352 blessés. Paris aura donc vécu ce vendredi soir la pire série d'attentats terroristes de son histoire. Conséquence, la capitale avait des airs de ville abandonné hier, peu de promeneurs, des lieux publics, restaurants, cafés, musées, magasins fermés en grand nombre, même si certains ont choisi justement d'afficher une activité normale, une sorte de réflexe militant comme un défi lancé en terroriste. Vanessa Descoureaux, vous avez passé une bonne partie de la soirée d'hier à respirer cette étrange atmosphère.
Il faut d'abord imaginer ce qu'est Paris sans spectacle, pas de théâtre, pas de concert, les salles de cinéma fermées, un soir sans culture, le simple fait de dire cette phrase en elle-même, eh bien donne tout simplement une idée de la morosité, au minimum de la morosité qui régnait hier dans la ville. Même les célèbres lettres rouges de l'Olympia étaient éteintes, ces caractères qui annoncent l'artiste du soir, éteintes et même démontées, rangées ces lettres, sans chanteur à célébrer, eh bien tout ça donnait au final à l'Olympia l'impression d'être une banale façade, une façade comme toutes les autres de cette avenue. Paris était hier soir grise, triste, une ville sans lumière, un Paris terne, mais aussi beaucoup plus humain, avec une solidarité toute naturelle entre ceux qui, hier, se sont décidés finalement à sortir dans la rue pour le soir d'après.
Paris, ville sans lumière, au lendemain de ces attaques, on écoute votre reportage, Vanessa Descours.
Standard de France Inter, je vous rappelle le numéro 01 45 24 7000, franceinter.fr.
Alors on va se promener dans Paris ce soir, l'humeur n'est pas aussi légère que les autres promenades du samedi soir d'habitude dans la capitale. L'idée est de voir un peu comment les Parisiens sortent ou ne sortent pas, d'ailleurs après le choc, le traumatisme peut-être plus d'ailleurs, le mot serait adéquat, après le traumatisme des attentats du vendredi 13 novembre. On passe juste à côté de la Tour Eiffel, de l'autre côté de la Tour Eiffel, juste en face, de l'autre côté de la Seine. Et la Tour Eiffel est ce soir dans le noir, plongée dans le noir. Elle n'est pas illuminée. Elle ne scintillera pas, donc, aux heures fixes. C'est une drôle de sensation, d'ailleurs, de passer devant ce monstre d'acier qui, d'habitude, donne un peu de couleur à la ville et qui, là, est éteint et donc triste. Nous sommes désormais sur la place de la République, la place Charlie Hebdo, comme l'appelaient certains journalistes étrangers au tout début de l'année.
Bon, là, je vais fêter les 30 ans d'une amie. On a changé de lieu, on va dans un appartement au lieu d'un bar. J'étais pas pour.
Comment vous l'avez appris, vous ? Hier, ce matin ?
Non, en fait, nous, on était dans un bar pas très loin de Fontaine-au-Roi, et donc, du coup, c'est un réseau de téléphone, en fait, qui une nana qui a appris pour Bataclan. Du coup, on a directement fermé les rideaux et on est resté à l'intérieur en attendant que ça passe.
Combien de temps ?
On a dû évacuer vers 2h30.
Et même si on veut faire comme d'habitude, est-ce qu'il n'y a pas une partie de nous qui se dit, au final, la vie ou ma ville a changé pour tout jamais ?
Non.
Non.
C'est un nom du cœur. Paris sera toujours Paris.
Vous êtes une vraie Parisienne, une pure Parisienne ?
Pas du tout. Je viens de La Rochelle.
Vous reconnaissez Paris, là, depuis ces dernières heures ?
Non. Non, c'est bizarre. Mais c'est con à dire, mais dans ces instants, il y a toujours des trucs chouettes, c'est-à-dire que les gens se regardent un peu plus dans les yeux. Enfin, voilà, ça devient un peu plus humain. C'est bête qu'il faille en arriver là pour capter un regard, par exemple. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pris le parti d'appuyer un peu plus mes bonjours. Enfin, je le fais d'habitude. Quand il y a un regard qui se croise, je dis déjà naturellement bonjour, mais là, un peu plus, et peut-être un peu plus envers nos amis de la communauté musulmane. J'habite aussi devant une mosquée, et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment tenu à dire bonjour encore plus.
Tigran, hein, de prénom, Jean Gauthier de nom. J'ai la pizzeria Alberto au 55 rue de l'Ancry, Paris 10e, depuis 19 ans.
Elle est triste, la rue de l'Ancry, ce soir. Hein. Oh,
ça en fait beaucoup de peine. Voilà. J'ai beaucoup de peine. Très bizarre. Même si j'ai perdu personne, tout ça, mais je me dis, ça aurait pu arriver ma fille, mes enfants, qui devaient être. Voilà, quoi, ça aurait pu arriver à eux, quoi. Je suis retourné, je ne sais pas comment j'agirai si un jour ça arrive un truc comme ça. Voilà, donc ce soir, comme mes employés n'avaient pas de transport, donc du coup, je leur ai demandé de rentrer chez eux l'après-midi, quoi, hein, pour qu'ils puissent rentrer à la maison tranquillement. Et puis, moi, je me débrouille avec un ami qui est là, qui est avec moi et qui fait ce qu'il peut, qui n'est pas son métier, mais qui fait ce qu'il peut pour me donner un coup de main, pour que je puisse servir les clients qui sont là.
On se débrouille, mais comme c'est affiché devant votre magasin, mais on n'a pas peur.
Exactement. Exactement, on n'a pas peur. Quand il y a eu Charlie Hebdo, on a mis des mois et des mois, en tout cas pour moi, hein, je ne sais pas les autres, mais pour moi en tout cas, de remonter la pente. On a commencé à remonter la pente, ça allait à peu près correctement, avec les difficultés de la vie bien sûr. Mais par contre, on commençait, les gens, ils avaient le sourire, ils avaient tout. Mais par contre, là maintenant, ben, ça, on remet une couche, ça va prendre des mois et des mois.
40 clients vendredi soir, ce samedi soir, combien de couverts ?
Oh, ce samedi soir, on a fait une vingtaine. C'est ce que, en général, on tourne 50-60 couverts. Parce que moi, je tourne beaucoup avec des habitués. Et ça se voit sur leur visage que même s'ils essayent de surmonter, mais ils ont ce mal-être par rapport à ce qui s'est passé, quoi.
Scène assez marquante à la terrasse de l'un des bars branchés du canal Saint-Martin, parce que sur cette terrasse, d'un côté, un groupe qui chante, danse, a envie de faire la fête, a très clairement envie de faire la fête, et puis de l'autre côté de cette terrasse, donc à 10 mètres, hein, pas plus, à 10 mètres, à l'inverse, deux jeunes femmes qui tombent dans les bras l'une de l'autre parce que l'une d'entre elles pleure, et pour être allée leur demander de quoi elles parlaient, évidemment qu'il s'agissait des attaques, des attentats de vendredi soir. Vous êtes taxi depuis combien de temps, vous, à Paris ?
Je suis taxi depuis 6 ans, 6e année.
Des soirs comme celui-ci, vous en avez déjà connu ?
Non. Oui, madame, ça fait 2 clients.
Il est 22h33.
22h33.
Deux clients.
Deux clients.
Vous avez commencé à quelle heure ?
J'ai commencé depuis 19h. Moi, j'explique, je crois que les gens, ils sont peur, c'est tout. Il n'y a que ça qu'il faut dire. Sans peur, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui est sorti, voilà, certaines personnes sont restées chez eux, donc ça se comprend aussi. On est des humains, la peur est là.
Dans ma tête, il y a tant de choses qui se passent, mais voilà, après, voilà, c'est triste, c'est juste, je ne trouve pas les mots pour exprimer le... Parce que c'est douloureux aussi. Franchement, moi, je comprends pas ce qui se passe. On est dans un monde, dans un monde noir. C'est terrifiant, c'est...
Vous êtes en état de choc ?
Ouais, comme tout le monde. Hein. Comme tous les Parisiens et comme tous les êtres humains. Bah, nous, surtout les Parisiens, parce qu'on vit ici, c'est triste. Hein. C'est ce que je disais à un pote à moi. C'est la première fois qu'on passe un samedi noir, c'est pas un samedi soir, c'est horrible. Et, personne n'est à l'abri. Hein. Après, voilà, pourquoi tuer comme ça gratuitement ? Et pourquoi ?
Quand vous parlez de samedi noir, c'est quoi un samedi noir pour vous ?
Voilà, voilà, tout est fermé, les gens ils sont à la maison, on vit dans la peur. Ça peut m'arriver, hein, ça peut vous arriver à vous aussi. Hein. Voilà. Mais pourquoi ? Franchement, c'est pourquoi ? Voilà.
Allez, je vous laisse tranquille.
Ouais, bon courage.
Oui, à vous aussi. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
Que ce samedi noir se termine vite et qu'on repasse au samedi soir.
Voilà, au samedi soir, tout à fait.
On passe devant la Cigale, qui est une salle de spectacle, une salle de concert très connue à Pigalle. Il y a une affiche à l'entrée qui est placardée à peu près partout et elle dit « Le festival des Inrocks est annulé compte tenu des événements tragiques de ce vendredi 13 novembre. Nos pensées vont directement à toutes les victimes, à leurs familles et à nos collègues du Bataclan. »
C'est bien d'annuler ça, parce que vraiment c'est très très triste. Moi je suis rentré... Hier le soir tard, c'est vraiment désertique. Paris, elle est déserte. On se pose des questions, c'est-à-dire qu'on peut être attaqué n'importe où et n'importe quoi. Voyez.
Alors en général, et ça va de pair, après un concert à la Cigale, bon nombre de jeunes Parisiens vont dans un bar qui s'appelle La Fourmi, qui est d'habitude pris d'assaut, occupé. Vraiment suroccupé, surchargé. Là, il y a du monde, objectivement, il y a un petit peu de monde, mais on trouve très très facilement des places, ce qui est rarissime pour un samedi soir dans cet endroit.
D'habitude, c'est rempli, mais vraiment, jusque sur le trottoir d'en face, c'est rempli. On rentre, on a même du mal à accéder au comptoir, on attend, voilà. Que là, on a l'impression qu'on est en semaine, qu'on est un mardi ou un mercredi soir, quoi.
Malgré tout, vous, toutes les trois, vous avez tenu à venir un samedi soir prendre un verre ici.
Pourquoi c'est important pour vous? On voulait pas rester enfermé chez nous pour à rien faire, on se serait senti mal. Enfin, moi je sais que déjà d'être toute seule, j'avais pas envie d'être toute seule. Rester chez nous ce soir, c'était leur donner un peu raison, et avoir peur et rester cloîtrée, c'était leur donner raison, et on n'a pas envie de leur donner raison, même si ça nous touche beaucoup forcément. Et que c'était un peu dur, oui, de sortir. Enfin, on n'était pas rassurés quand on est sorti, mais tout ne s'arrête pas parce qu'ils ont décidé de semer la terreur un peu partout. On est là, on continue de vivre, on vient, on sort, et on a envie de rire quand même et de chanter, et voilà, et de danser, de faire la fête et de vivre, quoi, tout simplement. C'était faire quelque chose, enfin, même si c'est juste sortir, mais c'était vivre, enfin, on peut pas rien faire.
Au début, c'est vrai que j'avais peur, j'y ai un peu réfléchi, je me suis dit, je sors pas. Bon, au final, je me suis dit, allez, il faut continuer à vivre. De toute manière, lundi, je me lèverai, j'irai travailler. Je suis encore un petit peu choquée, donc c'est vrai que pour en parler, c'est un peu compliqué, quoi.
Je me suis dit, je suis dans une ville où là, il y a quelque chose qui est en train de basculer, il y a quelque chose qui change, enfin, ça a déjà commencé, mais je me suis dit, il y a eu quelque chose de grave. Enfin, j'ai eu cette conscience-là de gravité et d'urgence. Je sais pas si c'est, je me suis pas dit la phrase « on est en guerre », mais je me suis dit « on est en danger » et il y a quelque chose de sérieux. Enfin,
vous vous êtes dit « il y aura un avant et un après » ?
Ah bah oui, on peut plus. Enfin, même dans les rues, moi ce matin en sortant de chez moi, même hier soir, enfin, j'étais dans un bar au milieu des fusillades, j'étais au comptoir général et on était enfermés dedans. Et en fait, quand on a pu enfin sortir, donc il y avait ceux qui se demandaient est-ce qu'on sort, il y en a qui sont restés, il y en a qui au contraire avaient hâte de rentrer chez eux. Enfin, moi au bout d'un moment, j'habite à 10 minutes donc je suis rentrée, mais le trajet, c'était le trajet le plus long de ma vie parce que et les gens que je croisais, c'était pareil, c'était plus pareil. Enfin, on pouvait plus. Plus personne ne peut vivre sa vie pareil, même ce matin dans la rue, les gens. Il y avait un truc de vide, quoi. Tout le monde était vidé.
Voilà votre reportage, Vanessa Descoureaux, sur cette ville lumière qui a éteint ses feux hier, qui a baissé le rideau. Ça va continuer aujourd'hui, puisque tous les établissements culturels publics resteront fermés pour la deuxième journée consécutive, y compris le musée le plus fréquenté au monde, le Louvre. Et puis sur le plan musical, on l'a entendu dans votre reportage, l'Olympia qui devait accueillir Vedo hier, Nekfeu ce soir va rester fermé encore aujourd'hui. On en a parlé, le festival des Arts Rock a été annulé. En revanche, le Zénith doit normalement rouvrir aujourd'hui, ce soir, avec un concert de Motorhead qui reste prévu. Le groupe U2 a annulé les deux concerts qu'il devait donner à Bercy, hier et aujourd'hui. Groupe qui, avant de quitter la France, est venu se recueillir devant le Saint Boulevard Richard Lenoir, l'adresse du Bataclan, où se tenait une veillée. La musique, le monde de la musique, globalement, est en deuil. On rappelle que trois collaborateurs d'Universal Music qui accompagnaient le groupe Eagle of Metal, Dead, le groupe qui se produisait au Bataclan, trois collaborateurs ont trouvé la mort dans les attentats. Vanessa,
trois collaborateurs d'Universal et un journaliste spécialisé, justement un journaliste musical
qui collaborait aux Arocs,
et c'est aussi pour ça que le festival, qui est très prisé en cette période de l'année, est annulé.
Pour la suite, c'est du cas par cas, du jour après jour, hein, pour les réouvertures de manifestations culturelles.
À ma connaissance, ça se décide au jour le jour, notamment en ce qui concerne les cinémas. Il semblerait que le groupe Gaumont-Pathé maintienne ses fermetures pour aujourd'hui, mais tout ça est décidé effectivement au jour le jour, pas à long terme, pas à moyen terme. Je pense que à l'image de ce qui se passe dans la société, tout le monde attend de voir comment on va se réapproprier notre vie d'avant, et c'est valable dans le cas de ces grands groupes aussi.
Évidemment, et donc la musique et la culture touchées de plein fouet à Paris. Après ces attentats, Corinne Pellissier a demandé à deux artistes natifs de Paris et amoureux de Paris, Juliette et Arthur H, comment ils ont vécu cette journée très particulière dans leur ville, ce jour d'après les attentats.
Je suis un peu, je suppose, strictement comme tout le monde, c'est-à-dire absolument abasourdi. En plus, il se trouve que c'est un concours de circonstances assez fâcheux, mais j'habite exactement à équidistance de chez Charlie Hebdo, et du Bataclan, donc tout entendu. J'ai entendu les premiers coups de feu, je sais maintenant quel bruit fait une Kalachnikov. Et puis voilà, j'ai entendu les premiers coups de feu, j'ai fait comme beaucoup de gens, je pensais que c'était des pétards. C'est quand j'ai entendu les milliards de milliards de sirènes qui se sont déclenchées que j'ai évidemment immédiatement compris que c'était pas du tout la joie et des pétards. Et puis après, ben, j'ai fait comme tout le monde, j'ai allumé ma télé. Voilà quoi, on se retrouve assez con, quoi, en fait. je dis rien parce que voilà, je crois qu'il va falloir d'abord penser les blessures et puis surtout pour ceux pour qui c'est des vraies blessures et fermer sa gueule pour pas dire de conneries parce qu'il faut pas rajouter. Non seulement il faut pas répondre à la violence par la violence, mais en plus il faut pas répondre à la bêtise par la bêtise. Mais évidemment j'y ai pensé, et évidemment j'y pense et évidemment c'est plus que tragique, mais comment dirais-je, voilà, mais ça va pas nous empêcher de le faire, quoi. Enfin, chier, quoi. Ce soir je sors avec des copains et puis ça va bien. On va pas tout arrêter parce qu'on sait pas où ça va tomber la prochaine fois, la foudre. Il faut continuer à vivre et puis si je puis dire, Inch'Allah, quoi, hein, on verra bien, hein, c'est comme ça. Moi je suis pas très, je suis assez de ce côté-là, comment dirais-je, ouais, c'est le fatum, quoi, c'est le destin, hein, si ça doit arriver, bah, ma foi. Moi, personne n'aurait pu, je sais pas, vous pensez que tout le monde savait qu'il allait y avoir un attentat à Paris, enfin c'était presque écrit, quoi, tout le monde le répétait tout le temps, etc. Donc, mais qui pouvait prévoir que ça tomberait sur des terrasses de bistrot du 11e arrondissement? C'est là où la chose est peut-être encore plus violente qu'elle ne l'est déjà, parce que vous avez vu les terrasses des cafés qui ont été touchées, il y a aucun symbole là-dedans. Il y a juste un hasard, un pur hasard, quoi. C'est la foudre, quoi. C'est comme la foudre, elle tombe au hasard, quoi. Donc c'est vrai que c'est vachement flippant, mais à ce moment-là, on va pas tout arrêter. Parce qu'à ce moment-là, on reste tous chez soi et puis on bouge plus. Donc je pense qu'effectivement, bah voilà, c'est la vie moderne.
Ça crée une espèce de tristesse diffuse, quoi, même si on n'est pas touché directement. Puis après, il y a aussi le contre-coup, évidemment, de choisir, en fait, de choisir encore plus la vie, quoi, de choisir l'amour. Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a en France, en tout cas, parce que c'est pas ailleurs, mais qu'il y a un attentat dans une salle de concert pendant que les gens jouent une chanson. Et c'est symboliquement, c'est fort quand même, parce que la musique, c'est tellement de l'amour. C'est tellement de l'énergie qui est partagée, comme ça, c'est tellement amical, en fait. Même du death metal. Les death metaleux, ils ont l'air méchants, mais ils sont tous hyper gentils, en fait. Ils ont envie de se défouler, quoi. Donc même du death metal, c'est quand même de l'amour. Alors qu'il y a tout d'un coup quelqu'un qui arrive là-dedans et qui. Quelqu'un pour qui la vie humaine n'a aucune importance, quoi. C'est ça qui est étonnant aussi pour nous qui sommes normaux. Nous, pour qui la vie humaine est importante, tout d'un coup, quelqu'un pour qui la vie humaine, c'est une abstraction, quoi. C'est un truc symbolique qu'on doit éradiquer, qu'on doit effacer, c'est pas grave. Quelqu'un fasse irruption dans un lieu de vie comme ça, c'est vrai que c'est fou, quoi, en fait. C'est fou, quoi. Moi, je suis pas pour vivre dans la peur, hein. Après, tu vois, une chance infime que quelqu'un nous tire dessus pendant qu'on chante, mais au contraire, je veux dire, on doit vraiment clairement choisir une affirmation de la vie, et moi je pense que la pulsion de mort, elle gagne momentanément, mais parce que momentanément elle impose sa force, sa violence, mais elle perd toujours à long terme, quoi. Et d'ailleurs, il faut que nous on contribue à ce qu'elle perde vraiment pas définitivement, mais parce qu'il y a toujours il y a beaucoup de violence dans le monde, partout. Là, il y a un conflit en Syrie absolument terrible, mais néanmoins, la mort perd toujours, quoi. Elle perd toujours. C'est toujours la vie qui gagne. C'est toujours les enfants qui font des enfants, les gens qui ont des enfants, les gens qui aiment la vie, qui aiment la musique, qui aiment l'amour. C'est nous qui gagnons à la fin.
Parole d'artiste Arthur H, juste après Juliette, interrogée par Corinne Pellissier du service Culture de France Inter. Lionel Thompson, on va remercier l'ensemble des reporters de France Inter et de France Info, dont on a écouté le produit des reportages.
Oui, Mathilde Dehimi, Philippe Randé, Antoine Gignot, et puis les reporters de France Info. Je vais pas tous les citer parce qu'ils étaient nombreux, mais toutes les équipes qui ont travaillé toute la nuit de vendredi sur ces attentats et grâce à qui nous avons pu confectionner cette édition spéciale.
Merci à vous tous, l'équipe d'Interception, pour cette émission spéciale. Lionel Thompson, Pascal Dervieux et Vanessa Descoureaux. La journée spéciale continue sur l'antenne de France Inter, à suivre sur l'antenne le midi 14h, assuré par Marion Lourd et Yves Decamp. Et puis entre 18h et 20h, un nouveau téléphone sonne spécial animé par Nicolas demeurant. Juste après le journal de 10h, vous retrouverez Guillaume Gallienne pour une rediffusion de Ça peut pas faire de mal, une émission consacrée au grand discours politique. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce 7-10 exceptionnel. Merci à l'équipe du 7-9 qui m'assiste habituellement, Mathieu Sarda, Marion Lelay, j'oublie Claude Frugier et qui d'autre encore était là, Alexia Lucas évidemment, d'avoir préparé cette émission spéciale. Merci à Patricia Martin qui nous a accueillis et puis à demain sur l'antenne de France Inter, il est 10h.